Chapitre 6. Un drame étrange. Pour bien comprendre les événements qui vont suivre, il est nécessaire que nous mettions nos lectrices et nos lecteurs au courant de la topographie de l'hôtel particulier des Avriers. Ainsi que nous l'avons dit, cet hôtel est situé rue du Renlag, tout près du bois de Boulogne. Un petit jardin, entouré d'une grille, étalait son parterre fleuri devant la façade à trois étages, très art moderne. Derrière la maison s'étendait un autre jardin, beaucoup plus grand, et dans lequel nous avions vu, au cours du bal dit des As, se dérouler plusieurs scènes entre certains personnages qui figurent dans ce récit. Ce parc en miniature, ainsi que nous l'avons dénommé, était entouré de très hautes murailles. Tout au fond, un vaste garage abritait les quatre autos de l'industriel. Au-dessus, le logement du chauffeur. Maintenant, faisons ce qu'on appelle le tour du propriétaire. On pénétrait dans l'immeuble par une grande porte en fer forgé qui donnait accès à un vestibule aux parois de marbre et aux dalles en mosaïque. Une large baie donnait dans une sorte de rotonde où s'ouvraient les portes qui commandaient les différentes pièces du rez-de-chaussée, c'est-à-dire deux très grands salons en enfilade, un autre salon d'hiver, une vaste salle à manger, un boudoir intime et le cabinet de travail de M. Avrier. Au premier étage, auquel on accédait par un large escalier de pierre orné d'une rampe en fer forgé et d'un dessin très original, on arrivait sur une galerie circulaire, surplombant la rotonde, éclairée par une verrière pratiquée dans le toit. Sur cette galerie, ornée de statues et de tableaux, d'autres portes s'ouvraient ainsi au rez-de-chaussée. Il y avait celle des appartements privés de M. et Mme Avrier, et du côté opposé, celle de l'appartement de Martine. À l'étage supérieur, des chambres d'amis qui pour l'instant étaient toutes inoccupées, et enfin, au troisième, celle des domestiques. Inutile d'ajouter que toutes ces pièces joignaient au plus agréable confort un luxe raffiné. L'appartement de Martine, notamment, avait été l'objet de soins tout particuliers. Il se composait d'une très jolie chambre, d'un studio-bibliothèque dont les fenêtres donnaient sur le jardin extérieur et où l'on voyait un superbe piano à queue sur lequel la jeune fille aimait à travailler les œuvres de ses musiciens préférés, puis d'un cabinet de toilette et d'une salle de bain. Martine adorait ce qu'elle appelait son petit chez-elle. Elle n'était pas de celles qui fuient la solitude, au loin de là. Bien qu'il eût terminé ses études depuis plus d'un an, il lui plaisait infiniment de continuer de s'instruire. Aussi aimait-elle à s'enfermer dans ce studio, à choisir un livre d'histoire ou de science, à se plonger dans la lecture ou à faire courir ses doigts agiles sur le clavier, allant même parfois jusqu'à se livrer à des improvisations qui révélaient de sa part un véritable tempérament d'artiste. Il lui arrivait aussi de s'étendre à demi sur un divan et de fermer les yeux, non point pour dormir, mais pour mieux penser, en s'isolant à ce qu'elle venait de lire ou de réaliser. Elle préférait ces instants de félicité personnelle à toutes les fêtes mondaines les plus éblouissantes. Ce jour-là, elle venait précisément d'exécuter le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, et elle se préparait à attaquer le second, lorsque tout à coup elle crut entendre des pas dans sa chambre. Vite elle se leva et s'en fut voir. C'était sa mère qui arrivait vers elle. Un visage heureux et tenant à la main un grand journal du soir à la main. « Décidément, disait-elle en riant, on ne peut rien cacher à personne, surtout aux journalistes, Regarde cet article. Madame Avrier désignait à Martine l'entrefilet suivant imprimé en tête de la rubrique des mondanités. Nous avons le plaisir d'annoncer les fiançailles du capitaine Alban, comte de Monthermé, brillant chef de l'escadrille dite des Hirondelles, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, avec Mademoiselle Avrier, la fille de l'industriel, célèbre directeur de la firme Excelsior, officier de la Légion d'honneur, et de Maître Florent Avrier, président de l'œuvre des aviateurs mutilés. Nous adressons toutes nos félicitations aux deux époux ainsi qu'à leur famille. Martine fit en rendant le journal à sa mère. En effet, les nouvelles vont vite. C'est avant-hier seulement que notre mariage a été décidé. Madame Avrier reprenait. Oh, je suis sûr que nous allons être assaillis de coups de téléphone pneumatiques, sans compter les offres des fournisseurs. Petite mère, déclarait la jeune fille, oh, je te demande pardon de tout le tracas que je vais te causer. Mais qu'importe, puisque c'est pour ton bonheur. Elle ajouta, tout à l'heure, lorsque tu descendras au salon, tu verras l'admirable corbeille de fleurs que t'a envoyé ton fiancé. Oh, alors, je descends tout de suite, s'écria Martine. Pour une fois, Beethoven ne m'en voudra pas de lui fausser aussi brusquement compagnie. Le temps de remettre ma musique en place et je descends. Quelques instants après, Martine rejoignait sa mère dans le salon. Sur une crédence, une splendide corbeille de roses blanches magnifiques répandait autour d'elle un délicieux parfum. Martine les admira, puis, s'approchant, respira la senteur, avec une expression de béatitude infinie. « Il t'a vraiment gâté !» faisait constater Madame Avrier. « Oui, dit la jeune fille, et je pressens qu'il me gâtera encore bien davantage. »« Oui, je crois que tu as raison, reprenait la belle Antoinette. Quand il parle de toi, oh, sa physionomie s'illumine en un rayonnement de tendresse. » Maintenant qu'il est sûr de son bonheur, il exulte d'une telle allégresse qu'il n'a pas besoin de parler pour que l'on surprenne et que l'on comprenne tout l'amour qu'il a pour toi. Ah, tu peux te figurer, ma chère petite, combien je suis heureuse que toi aussi tu fasses un mariage d'amour. Regarde-nous, ton père et moi. Après 18 ans de mariage, nous sommes unis aussi tendrement et plus puissamment que jamais. Notre vie à tous deux a toujours été empreinte de confiance mutuelle. Aucun nuage ne s'est jamais élevé entre nous. Il me semblerait aussi impossible de vivre loin de ton père que lui de se séparer de moi. Et il faut qu'il en soit ainsi. Car si dans un ménage on n'éprouve pas l'un pour l'autre une aussi douce et aussi forte attirance, on s'en va, ayant peut-être connu la douceur d'une sincère amitié, mais ayant ignoré les joies ferventes d'un véritable amour. Tous deux, Alban et toi, vous allez nous continuer. Oh, je ne pouvais pas souhaiter mieux. Et puis l'on dirait que votre amour, si grand, si noblement partagé, a purifié notre atmosphère et les miasmes dont on avait cherché à l'empoisonner. Oui, ainsi que ton père me le disait encore ce matin, les crapauds se sont tus. Les lettres anonymes ne se sont pas renouvelées, et j'en arrive même à me réjouir de cette crise, qui fut si douloureuse un instant pour nous trois, puisqu'elle a provoqué l'épanouissement de ton cœur, et que l'amour que t'avait inspiré Alban de Monthermé a cessé d'être un mirage pour devenir une réalité. On frappait à la porte. Le valet de chambre annonçait « Monsieur le capitaine de Monthermé !» Alban parut. Il n'était pas encore revenu de l'émotion qu'il avait ressentie lorsque, 3 jours auparavant, Au cours d'une partie de tennis, Martin lui avait dit: Pourquoi jouez-vous si mal aujourd'hui, capitaine? Est-ce parce que je suis votre partenaire? Peut-être, avait répondu malgré lui le célèbre aviateur. Puis, se rattrapant aussitôt, il avait ajouté avec embarras: Oh, je serais désolé que vous vous méprisiez sur le sens de mes paroles et que vous y voyiez la moindre insolence et même le plus léger reproche. Je ne sais pas vraiment comment vous dire. Avec ce sourire qui était tout son charme, Martine reprenait: Ne vous donnez donc pas de mal, cher capitaine, à trouver des excuses à la réponse si spontanée que vous m'avez faite. Je sais très bien que vous n'avez rien voulu me dire de désagréable et que, au contraire, si vous l'osiez, vous me diriez de tels compliments que je serais obligé de rougir jusqu'aux oreilles. Mademoiselle, je ne saisis pas. Vous, un homme aussi intelligent? Il y a des moments où je me sens stupide. Dites plutôt trop prudent, trop timide. Oh, mademoiselle, vous me mettez à une cruelle épreuve. Parce que vous le voulez bien. Il ne tient qu'à vous, si elle vous est aussi pénible qu'elle en a l'air, d'y mettre un terme dans le plus bref délai. Alors, mademoiselle, soyez assez beau pour m'indiquer ce que je dois faire. Oh, c'est très simple. Vous allez immédiatement trouver mon père et ma mère et leur demander ma main. À ces mots, Alban laissa échapper la raquette qu'il tenait à la main. Puis, éperdu, il balbutia: Mademoiselle, vous parlez sérieusement? Très sérieusement. Est-ce possible? Est-ce que je vous le dis? Comment vous... Oh, vous me voyez tellement troublé que... Attention, vous allez vous trouver mal. Allons, capitaine, remettez-vous. Comment un as tel que vous peut-il avoir des nerfs aussi sensibles? Avec une émotion indicible, Alban reprenait: Mademoiselle, vous me forcez à vous dire que je vous aime à un tel point que si j'étais de votre part l'objet d'une plaisanterie qui à vos yeux ne saurait être que fort innocente, je crois que je ne m'en consolerais jamais. Je ne plaisante pas, affirmait gravement Martine. Moi aussi, Alban, je vous aime. Je l'ai avoué à mes parents, et lorsqu'ils ont su la vérité, mon père, qui ne voulait pas entendre de mariage pour moi avant au moins 2 ou 3 années, et ma mère qui partageait cet avis, ont immédiatement déclaré qu'ils étaient prêts à vous accueillir comme un fils. Oh, je suis trop heureux! S'écriait Monthermé. Mademoiselle, pardonnez-moi si je ne trouve pas les mots qu'il faudrait pour vous exprimer ce que je ressens. Mais je les lis sur votre visage, reprenait Martine, et je souhaite que vous lisiez également sur le mien tout le bonheur qui est déjà en moi. Le jour même, le capitaine de Monthermé faisait sa demande officielle et était agréé. Maintenant, vivant son rêve, il était là, enveloppant d'un long regard d'amour l'être adorable qui dans quelques jours allait être sa femme. Martine n'attendit pas qu'il lui présentait ses hommages à sa mère pour s'écrier: Quelle belle fleur vous m'avez envoyée! Vous saviez donc que les roses étaient mes fleurs préférées? Oui, Martine, répliqua Alban. Vous me l'aviez dit l'hiver dernier au cours d'un dîner à l'aéroclub. C'est vrai, oh, je ne m'en souviens plus. Vous avez décidément une mémoire extraordinaire. Mais non, puisqu'il s'agissait de vous, Martine. Discrètement, Madame Avrier, après avoir serré la main d'Alban, se retirait sous un vague prétexte, car elle n'était point de ces mères qui se figurent qu'il est de leur devoir de se tenir aux côtés de leur fille jusqu'à l'heure de la cérémonie religieuse ou civile, et de surveiller, duègnes impitoyables, les entretiens auxquels se livrent les futurs époux. Demeuré seul, Alban de Monthermé prit la main de sa fiancée et la porta jusqu'à ses lèvres. Il n'osait pas encore hasarder un autre baiser si chaste fût-il, tant il avait peur de troubler prématurément cette âme harmonieuse qui s'apprêtait à vibrer de concert avec la sienne. « Gaiement, Martine s'écriait, « Ah, vous savez que l'on parle de nous déjà dans les journaux. « Ah, vraiment ? » s'exclamait le capitaine. « Oui, pour vous cela n'a rien d'étonnant, car vous avez l'habitude de voir votre nom imprimé et accompagné d'éloges, tandis que moi, c'est la première fois. « Alors vous voulez dire que l'on annonce notre mariage ?»« Mais oui, monsieur mon fiancé. » Tendant à Alban le journal que sa mère avait déposé sur une table, elle lui désigna à son tour le passage qui avait trait à eux. Martine plaisantait. « Nous pouvons nous vanter d'avoir déjà une bonne presse. »« Excellente, en effet, » souriait Alban. « Et méritée, » surenchérissait la fille de l'industriel. Tout à son ivresse, le capitaine écoutait sa fiancée avec ravissement. Dans la gaieté qui animait Martine, il voyait une preuve de plus de l'attachement si spontané qu'elle lui témoignait, et il songeait que la vie allait être un véritable délice avec une pareille compagne. « Et si nous faisions des projets ?» reprenait-il d'un ton aussi enroué et joué que celui de sa fiancée. « Oh, je ne demande pas mieux, » répliqua celle-ci, « d'autant mieux que jusqu'ici nous n'avons eu guère le temps d'esquisser les grandes lignes de notre future existence. » Monthermé reprenait. « Je commence par vous dire, chère petite Martine, que j'ai l'intention d'être envers vous un tyran implacable. « Ah, mon Dieu !» Cela n'a pas l'air de vous effrayer beaucoup. En effet, car je suis persuadé que vous ferez au contraire tout ce que je voudrais. Mais vous êtes une véritable devineresse. Eh bien, je vais vous dire ce que je veux. À la bonne heure. D'abord, que vous me quittiez le moins possible. Je vous jure qu'en dehors de mes heures de service, je serai toujours près de vous. Et si je vous demandais de donner votre démission? Je la donnerais. Cela vous coûterait peut-être. Non, rien ne me coûterait pour vous être agréable. Comme vous êtes bon, je vous aime. Vous venez en effet de m'en donner la plus grande preuve. Car pour renoncer à une carrière où tant de succès vous attendent encore, il faut véritablement que vous ayez pour moi un amour immense. Mais je ne veux pas vous imposer ce sacrifice, car je vous aime trop, moi aussi, pour ne pas placer au-dessus de tout le légitime orgueil que vous inspire le noble métier où vous êtes illustré, et vous vous illustrerez encore davantage. « Martine, ma bien-aimée !» s'écriait Alban enthousiasmé. Vous ne pouvez vous imaginer à quel point je suis heureux de vous entendre me parler ainsi. Il en sera toujours de même, promettait Martine, en offrant en un mouvement de grâce virginal et charmant son front à son fiancé qui, avec ferveur, y appuya ses lèvres. Lentement, une des roses de la corbeille commença à effeuiller ses pétales. On y dit de grosses larmes tombant sur le marbre d'un tombeau. Deux jours après, vers 9 heures du matin, Madame Avrier, toute surprise de ne pas encore avoir reçu le bonjour de Martine, et craignant qu'elle ne fût souffrante, monta jusque chez elle et voulut pénétrer chez sa fille. Ce fut en vain. La porte était fermée au verrou. Elle frappa. Rien ne lui répondit. Subitement angoissée, elle colla son oreille contre le battant. Des plaintes très faibles, de sourds gémissements, s'élevaient de l'intérieur. « Mon Dieu !» se dit la mère affolée. « Mais qu'est-elle bien pu arriver à cette pauvre enfant ? Elle que j'ai quittée hier soir, si gaie, si parfaitement heureuse. » Elle chercha de nouveau à ouvrir la porte. Ce fut en vain. Elle descendit 4 à 4 l'escalier en appelant au secours. Florent, qui se préparait à se rendre à son usine de Sartrouville, accourut aussitôt. En quelques mots, sa femme le mit au courant de la situation. Non moins bouleversé qu'elle, il se dit: pourvu qu'il ne soit pas arrivé à malheur! Faisant appel à tout son sang-froid, il monta vite les deux étages et constata à son tour qu'il était impossible de pénétrer dans la chambre de sa fille. Il faut vite envoyer chercher un serrurier, dit Antoinette. Non, répliqua l'industriel, cela demanderait trop de temps, le mieux est d'enfoncer la porte. Le maître d'hôtel Augustin apparaissait. Florent lui dit: allez vite au garage, demandez à Georges un marteau et un ciseau à froid. Madame Avrier ajoutait: oui, mademoiselle doit être bien malade puisqu'il ne peut pas ouvrir. Augustin disparut. Les plaintes augmentaient d'intensité. C'était maintenant presque des cris de détresse. La pauvre mère, qui de nouveau appuyait son oreille contre le battant, s'écriait épouvantée: elle appelle au secours! Ah, ça, Augustin ne reviendra donc pas! Les très brèves minutes qui s'écoulèrent jusqu'à ce que le valet de chambre rapportât les objets réclamés parurent interminables à monsieur et madame Avrier, qui se demandaient avec terreur quel drame aussi mystérieux qu'inattendu avait bien pu se jouer de l'autre côté de la cloison. Augustin parut enfin. Florent s'empara du ciseau et du marteau. En quelques coups bien placés, il fit sauter le battant supérieur et un cri d'horreur lui échappa. Il venait d'apercevoir sa fille étendue, ligotée au pied de son lit, le visage ensanglanté. Passant son bras à travers l'ouverture, il poussa le verrou. Augustin, fit-il, restez dans le couloir et attendez mes ordres. Et il pénétra dans la chambre, suivi par Antoinette, qui se précipita vers sa fille en disant: Martine, mon enfant, on l'a assassiné. Tout semblait indiquer que madame Avrier disait la vérité. La jeune fille était étendue à terre. Une cordelette mince, mais très solide, s'enroulait autour de son corps. Un mouchoir dont on avait dû chercher à faire un bâillon pendait autour de son cou. Le sang qui inondait sa figure provenait d'une blessure assez profonde à l'arcade sourcilière droite et qui, au premier abord, semblait avoir été faite par ce qu'en termes médico-légal on appelle un instrument contondant. Elle portait aux deux bras quelques ecchymoses. Sa chemise de nuit brodée était déchirée à plusieurs endroits. Bref, la malheureuse était dans un état lamentable. Tandis que madame Avrier éclatait en sanglots, l'industriel saisissait sa fille dans ses bras et la transportait sur son lit. En voulant desserrer la corde qui ligotait Martine, il s'aperçut que celle-ci était quelque peu relâchée. Florent respira. Sans doute, l'assassin, surpris, dérangé par quelques bruits du dehors, ou contrarié par la résistance énergique qu'avait dû lui opposer la jeune fille, avait-il dû prendre la fuite avant d'avoir eu le temps de commettre jusqu'au bout l'odieux attentat qu'il projetait. Mais ce n'était pas le moment de chercher à deviner ce qui s'était passé. Martine réclamait des soins immédiats. Aussi Florent dit à sa femme, qui avec son mouchoir commençait à étancher d'une main tremblante le sang qui coulait goutte à goutte de la plaie: ma chère Antoinette, ne perdons pas la tête. Notre fille est vivante et je suis même à peu près sûr qu'elle n'est pas grièvement blessée. Renvoie Augustin, dis-lui même qu'il n'y a rien de grave. Et il ajouta avec amertume: le drame qui s'est déroulé la nuit dernière dans cette chambre et de ceux sur lesquels il faut jeter un voile. Oui, je le crains, soupira madame Avrier, qui s'en fut exécuter les instructions de son mari. Quand elle reparut, Martine commençait à revenir à elle. Ses paupières rouges et tuméfiées s'ouvraient lentement, très lentement. Sa poitrine se soulevait dans soubresauts irréguliers. Elle chercha à soulever sa tête qui languissamment reposait sur l'oreiller. Mais ce fut en vain. Elle semblait brisée, incapable du moindre effort. Ma chérie, nous sommes là, faisait Madame Avrier. Maman, père, murmura Martine d'une voix à peine perceptible. Puis avec effort, elle fit: J'ai soif, très soif. Madame Avrier s'enfuit dans le cabinet de toilette et en revint avec un verre d'eau qu'elle fit boire très doucement, gorgée par gorgée, à sa fille. Madame Avrier, un peu rassurée, s'en fut faire bouillir de l'eau afin de nettoyer et de panser la plaie. Pour le moment, il ne fallait pas songer à interroger la blessée. Elle eût été incapable de répondre aux questions qui se pressaient déjà sur les lèvres de ses parents, mais que ceux-ci avaient la prudence de ne pas lui poser. Un quart d'heure après, tous les soins maternels étaient terminés. Un pansement adroitement préparé et placé par Antoinette, qui avait été pendant la guerre une excellente infirmière, recouvrit une partie du front de la jeune fille, qui, après avoir absorbé une cuillère d'eau de mélisse, semblait avoir retrouvé les quelques forces dont elle avait besoin pour révéler aux siens le mystère de la nuit précédente. Te sens-tu un peu mieux? Interrogeait Madame Avrillé. Oui, maman. L'industriel reprenait à son tour. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Je vais essayer, déclarait Martine d'une voix faible, hésitante. Puis, lentement, pour reprendre haleine, elle précisa. Je m'étais paisiblement endormie lorsque, vers 1 heure du matin, je crois, il me sembla entendre du bruit dans mon studio. J'allumai l'électricité et j'écoutais. Je ne m'étais pas trompé. Quelqu'un qui cherchait à étouffer le bruit de ses pas marchait dans la pièce voisine. D'un bond, je fus hors de mon lit et je me précipitai vers la porte qui fait communiquer la chambre et le studio afin d'en pousser le verrou. Il était trop tard. Un homme surgit, vêtu de noir et coiffé d'un casque d'aviateur, complété par un masque qui dissimulait entièrement son visage. Il tenait à la main un Browning dont il me menaçait sans dire un mot. Impossible de sonner et d'appeler au secours. Alors instinctivement, je levai les bras. Alors cet individu, que je prenais pour un voleur qui s'était introduit dans l'hôtel pour nous cambrioler, marcha droit vers moi, me forçant à reculer jusqu'à mon lit, sur lequel je m'écroulais à demi-morte de peur. Après avoir déposé son revolver sur ma table de nuit, il me bâillonna à l'aide d'un mouchoir et commença à m'attacher les bras le long du corps. Et cela sans prononcer un mot. Plus terrible encore dans son silence que s'il eût proféré des menaces. Alors à la frayeur qui m'avait terrassé, succéda bientôt un désir instinctif de me défendre. Maintenant j'en étais sûr, le misérable n'en voulait pas à ma vie. S'il avait eu l'intention de me tuer, il l'eût déjà fait. Et d'une voix qui se brisa en un sanglot, la fille de l'industriel articula: Il en voulait à mon honneur. Ma pauvre petite fille, s'écriait Madame Avrier tout haletante d'un maternel émoi. À ce moment, poursuivit Martine, je me sentis tout à coup galvanisé par la volonté de me défendre, quitte à en mourir. Oh oui, tout de même la mort, plutôt qu'une chose aussi effroyable. Alors brusquement, je commençais par me débattre. Mon agresseur saisit son revolver. Je crus qu'il allait me brûler la cervelle. Mais non, il me frappa au front d'un violent coup de crosse. Le sang jaillit, mais je ne m'évanouis pas. Et je continuais de lutter désespérément. Impossible de crier, le bâillon m'étouffait. Alors, pour la première fois, sa bouche s'entr'ouvrit et j'entendis une voix que je crus reconnaître grincer à mon oreille. Je suis venu me venger. Et comme je me défendais encore, il voulut même m'étourdir d'un nouveau coup de crosse. Mais tandis qu'il levait le bras, son masque se détacha. D'abord, il se précipita sur le commutateur et éteignit l'électricité. Mais pas assez vite pour que je n'eusse le temps d'apercevoir sa figure, c'est-à-dire celle du lieutenant Jacques Moret. Lui? S'écriaient simultanément monsieur et madame Avrier, en proie à une indicible épouvante. Oui, lui, j'en suis sûr, martelait la jeune fille avec une foi ardente, une conviction inébranlable. Es-tu certaine de ne pas l'avoir commis de méprise? Interrogeait Florent. Oh non! N'a-t-il pas été l'objet d'une hallucination? Objectait Antoinette. Mais non, non! S'obstinait Martine. C'est lui, j'en suis sûr, absolument sûr. Oh, il pourra affirmer le contraire. Moi, je soutiendrai toujours que c'est lui. Consterné, monsieur Avrier demandait. Et que s'est-il passé ensuite? Martine répliquait. Il s'est enfui dans le studio. Et par où est-il sorti? Je l'ignore. Je suis resté étendu sur mon lit, inerte, brisé, à demi étouffé, paralysé, me demandant toujours s'il n'allait pas reparaître. Et au bout d'une heure environ, quand j'ai été sûr qu'il ne reviendrait pas, j'ai cherché à me dégager de mes liens, de mon bâillon. Mais en me débattant, je suis tombé là où vous m'avez trouvé. Je me suis évanoui et je ne suis revenu à moi que lorsque vous êtes arrivé. Mais encore une fois, questionnait monsieur Avrier, es-tu bien certaine que tu n'as pas commis d'erreur? Non, père, c'était impossible. C'était Jacques Moret, c'était lui. Que l'on me confronte avec lui, on verra bien s'il ose nier, mentir encore. Calme-toi, conseillait monsieur Avrier. Et Alban, qui vient déjeuner, se rappelait sa femme. Qu'allons-nous lui dire? Mais la vérité, scandait la jeune fille. Oh, donne-nous au moins le temps de réfléchir, suggéra l'industriel. Songe que la nouvelle de cet attentat, dont tu as failli être victime, peut provoquer un scandale dont tu risques de sortir éclaboussé. Ou peu m'importe, s'énervait Martine. Je veux que le lieutenant Moret soit démasqué, châtié, comme un bandit, comme un lâche qu'il est. Tant pis si son auréole de gloire disparaît dans la boue. Il aura bien voulu et bien mérité. Madame Avrier allait répliquer, et d'un pas rapide coup d'œil, son mari l'invita au silence. C'est entendu, dit-il à haute voix. Tu peux être entièrement rassuré. Le coupable sera puni. Mais en ce moment, après une nuit aussi tragique, tu as besoin de repos. Je vais te faire prendre un cachet dont je me sers lorsqu'à la suite d'un trop grand surmenage, je souffre d'insomnie. 3 ou 4 heures d'un sommeil réparateur t'aideront mieux que n'importe quel conseil ou quel remède à retrouver le calme physique et moral dont, ma pauvre enfant, tu as si grand besoin. Ces mots, prononcés avec une affectueuse fermeté, produisirent sur Martine un effet de détente salutaire. Oh oui, dormir, je veux bien, fit-elle. Au moins pendant ce temps-là, j'échapperai à ce cauchemar vécu qui me poursuit encore. Florent s'en fut chercher le cachet que Martine absorba sans la moindre difficulté. Un quart d'heure après, elle était profondément endormie. Laissant éclater son désespoir, madame Avrier se précipita dans les bras de son mari en sanglotant. Ce qui nous arrive est vraiment effroyable. L'industriel déclarait: Le malheur aurait pu être encore plus terrible, même irréparable. En effet, reprenait Antoinette, ce misérable t'est venu certainement dans l'intention de déshonorer notre fille. Laissons-la reposer, décidait Monsieur Lavrier, et passons dans le studio. Nous pourrons y parler plus à notre aise et sans risquer de réveiller ces deux pauvres enfants. Ils s'enfuirent dans la pièce voisine. Tout de suite, Antoinette remarqua que la fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur était ouverte. Oh, c'est sans doute par là, fit-elle, que Jacques Moret s'est introduit dans l'appartement de Martine. Son mari lui prit les mains. Et tout en la regardant bien dans les yeux, il fit: Veux-tu connaître tout le fond de ma pensée? Oh, je t'en prie, dis-moi tout. Eh bien, je ne peux pas croire que Jacques Moret se soit rendu coupable d'un pareil forfait. Stupéfaite, Madame Avrier s'écriait: Mais Martine a été cependant plus que catégorique. Tu la connais, elle est incapable de mentir, et a plus forte raison d'accuser un innocent. Oui, d'accord, mais elle a pu se tromper. C'est impossible, elle a été beaucoup trop affirmative. Écoute-moi, ma chère Antoinette. Tu n'es pas sans avoir entendu parler de ces phénomènes d'autosuggestion qui font perdre parfois à ceux qui en sont l'objet tout contrôle d'eux-mêmes. Oui, je connais cette théorie, mais je ne suis pas assez savante pour la discuter. Cependant, il est un fait indéniable. C'est que quelqu'un est entré chez Martine et qu'il l'a menacé de son revolver, brutalisé, bâillonné, ligoté. Parfaitement, eh bien. Lentement, Monsieur Avrier déclarait: Et si ce misérable n'était pas Jacques Moret? Mais encore un coup, c'est impossible. Martine, l'industriel l'interrompit. Martine vit depuis quelques jours dans un état de surexcitation qui est tout à fait incompatible avec sa nature. Qui te dit qu'hypnotisée en quelque sorte par la pensée de Jacques Moret, troublée, affolée comme elle devait l'être, elle n'a pas pris pour lui celui qui s'était introduit dans sa chambre? En effet, que lui a dit ce misérable? Je viens pour me venger. Or, il y a quelques jours, ainsi que tu l'as reconnu toi-même, Jacques Moret, très nettement et avec beaucoup de noblesse, a fait justice de l'accusation dont il était l'objet. Après une telle explication, ce garçon, qui en ce moment se trouve dans une situation admirable, aurait été accomplir un acte aussi odieux que stupide, aussi abject qu'inexplicable. Cela ne tient pas debout. Il faudrait qu'il fût devenu fou. S'attaquer ainsi à une jeune fille telle que Martine. Allons, allons, c'est pas possible. Je te le répète, parce que j'en suis sûr, notre pauvre enfant a eu une hallucination. De tels exemples sont assez fréquents pour asseoir ma conviction. Et lorsque Martine se sera ressaisie, notre premier devoir sera de chasser de son esprit toute trace d'une accusation aussi invraisemblable et aussi injustifiée. Madame Avrier répliquait: Oh, mon cher Florent, je ne demande qu'à partager ton opinion. Ce serait si épouvantable que Jacques Moret fût le coupable. Oui, plus j'y réfléchis, plus, ainsi que toi, je me rends compte de l'invraisemblance de l'accusation que Martine a portée contre lui. Mais alors, comment t'expliques-tu ce drame? Oh, je vais te le dire, déclarait l'industriel. Pendant quelques jours, nos ennemis se sont tenus tranquilles. Peut-être ont-ils su, comment, je l'ignore, que nous avions une explication, Jacques Morel et moi, et que nous en étions sortis non pas désunis, comme ils l'espéraient, mais au contraire unis plus que jamais. Ils se sont dit: Oh, de ce côté-là, il n'y a rien à faire, il faut inventer autre chose. Et ayant appris les fiançailles de Martine avec Monthermé, ils n'ont pas hésité à soudoyer un individu, quelques bandits qu'ils ont été chercher dans un bas-fond, où il devait avoir des accointances, et ils l'ont chargé de cette atroce mission qui consistait à déshonorer notre cher enfant. Cela me semble en effet des plus logiques, approuvait Madame Avrier. Mais quelle attitude devons-nous avoir devant le capitaine de Monthermé? Laisse-moi réfléchir encore. Pour l'instant, je crois qu'il vaut mieux gagner du temps. Je vais téléphoner immédiatement au détective Chantecoq afin de savoir s'il est revenu de voyage. En ce cas, je prendrai avec lui un rendez-vous et je lui demanderai de bien vouloir faire une enquête au sujet de cette mystérieuse affaire et en attendant qu'il démasque nos ennemis, de nous donner les moyens de nous défendre. Monsieur Avrier allait s'éloigner lorsqu'il aperçut un objet à terre sur le tapis. Il le ramassa, c'était une montre-bracelet d'homme. « Tiens, dit-il, voilà une trouvaille qui va peut-être nous être utile. » Il sortit la montre de sa gaine. Sur le boîtier en or, il y avait les initiales J.M. Très troublé, il ouvrit la montre. À l'intérieur du boîtier était encastrée une petite photo d'amateur qui représentait l'aviateur tenant dans ses bras une jeune femme. L'industriel montra sa découverte à sa femme et lui dit d'une voix hésitante « Oui, il n'y a aucun doute. Cette montre appartenait à Jacques Moret.
Alors, c'est donc lui ?»«
J'en ai peur, à moins que ce bijou lui ait été dérobé. » Mais M. Avrier n'était pas au bout de ses surprises. Comme il redescendait dans son bureau pour serrer dans un tiroir la pièce à conviction terriblement accusatrice qu'il était entre ses mains, le premier valet de chambre s'approcha de lui et lui dit « Monsieur, il y a Georges qui voudrait vous dire un mot. »«
Je l'attends, » dit l'industriel en pénétrant dans son cabinet de travail. 2 minutes après, le chauffeur apparaissait. Il portait un paquet sous le bras.
« Monsieur m'excusera, » fit-il, « si je le dérange. Cependant, tout à l'heure, j'ai fait une découverte qui m'a paru plutôt inquiétante et je me suis empressé d'en faire part à monsieur. Je crois que la nuit dernière, des cambrioleurs ont cherché à pénétrer dans la maison.
« Que me dites-vous là ?» fit Florent Avrier en simulant une surprise très vive. Développant son paquet, Georges retirait une échelle de corde extrêmement fine, mais d'une solidité à toute épreuve. M. Avrier eut un léger tressaillement. Il venait en effet de reconnaître une échelle fabriquée à son usine et qu'il avait donnée quelque temps auparavant à Jacques Moret, avant son départ pour Buenos Aires, afin de lui permettre, au cas où son avion s'accrocherait au cours d'une descente imprévue à des arbres et y resterait suspendu, de regagner le sol rapidement et sans encombre.
« Déposez cela sur cette table, » dit-il au chauffeur.
« Bien, monsieur. »«
Maintenant, dites-moi, où l'avez-vous trouvé, cette échelle ?»«
Au pied du mur qui donne sur la rue Radenac, à droite de l'hôtel. »
Bien, je vous remercie.
J'ai encore autre chose à dire à monsieur. J'ai remarqué aussi tout le long du mur des traces de pas.
Y sont-elles encore?
Oui, monsieur. J'ai bien recommandé à tout le monde de ne pas les effacer.
Vous avez bien fait, mon garçon. Je vais aviser. Le chauffeur déclarait.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il devait sûrement n'y en avoir qu'un. Parce que les traces que j'ai repérées étaient partout les mêmes. Peut-être bien qu'il y en avait un autre dans la rue qui faisait le guet.
C'est égal, il faut tout de même avoir un sacré toupet pour oser pénétrer dans une demeure habitée.
Le plus extraordinaire, monsieur, me permettant de le lui dire, c'est que Tom et Max, les deux chiens policiers que nous lâchons dans le jardin chaque nuit, n'étaient même pas aboyés. Pourtant, ils ne sont pas commodes.
Bien, cela suffit, dit l'industriel. Retournez dans le jardin, attendez-moi,
Je vous rejoins dans un instant et vous me montrerez alors ces traces de pas dont vous venez de me parler.
Bien, monsieur.
Georges se retira.
Monsieur Avrier prit l'échelle, la considéra pendant un instant, puis il fit désemparé, abattu.
Il n'y a pas de doute possible.
Cette échelle est bien celle que j'ai donnée à Moret. Elle porte le même numéro que le moteur de l'avion.
Oh, c'est à en faire perdre la tête.
Il serra l'échelle dans son coffre-fort qu'il referma soigneusement et il s'enfuit dans le jardin retrouver son chauffeur qui l'attendait. Celui-ci le conduisit à une plate-bande qui longeait le mur. Le père de Martine s'aperçut que le sol avait été foulé par des pas qui étaient bien ceux d'un homme ayant un pied de dimension moyenne et qui était chaussé de souliers sans talons ou même de simples espadrilles. Il se dit « Eh bien, maintenant, je reconstitue les faits. Le coupable, il n'osait pas encore dire Jacques Moret, à l'aide de l'échelle de corde, a franchi le mur extérieur et est redescendu dans le jardin. Mais comment a-t-il pu adapter cette échelle à la fenêtre de la chambre de ma fille qui est située au second étage? Ou bien il avait pu se procurer la clé de la porte de service et monter ainsi jusque là-haut? Ou bien il avait un complice dans la place? Et puis les chiens? Les chiens, eux, qui souvent aboient pour rien ou presque rien. Tout cela devient inouï, affolant. Je ne croyais pas qu'il fût possible à un être humain de se débattre dans un pareil mystère. Et tout haut, il dit à son chauffeur, « Où sont Tom et Mix ?»«
Tout à l'heure, monsieur, ils dormaient dans leur niche. »
Sans rien ajouter, l'industriel se dirigea vers le garage. La vaste niche des deux chiens se trouvait à droite de la porte d'entrée. En y arrivant, M. Affrier fit entendre un sifflement qui suffisait toujours pour bien apparaître les deux chiens. Cette fois, ils demeurèrent étendus sous leur abri. M. Affrier s'approcha. Tom et Mix étaient étendus, tous les deux, les pattes raidies, complètement inertes. L'industriel en amena un à lui. Il constata qu'il était mort, l'autre également. Atterré, il fit au chauffeur qu'il avait rejoint.
Eh, pauvres bêtes, elles ont été empoisonnées toutes les deux.
Oh, c'est donc cela, dit Georges. Oh, les corbandis, les canailles!
Et naïvement, il ajouta.
Qu'ils s'attaquent au monde, passe encore, mais à ces braves toutous, qui eux ne peuvent pas deviner qu'il y a du poison dans une boulette, hein. Oh, mais ça, c'est pas trop dégoûtant. Oh, si monsieur veut bien, je vais aller tout de suite au commissariat de police.
Non, non, refusait l'industriel.
Je vous demande même, jusqu'à nouvel ordre, de le garder le silence absolu sur cette histoire. Car donner trop vite l'éveil à des bandits de cette espèce, c'est souvent leur permettre de prendre la fuite.
Je ferai comme monsieur voudra, mais cette nuit je dormirai que d'un œil et je mettrai mon revolver sous mon traversin.
C'est cela, approuvait l'industriel, qui retourna aussitôt dans son cabinet de travail. Alors il saisit son téléphone et demanda le numéro de Chantecoq. On lui répondit que celui-ci ne rentrerait que le soir même, et peut-être même que le lendemain matin. L'air découragé, M. Avrier raccrocha l'appareil, et cependant la tête entre les mains se posa cette question qui révélait tout le désarroi de son âme profondément ulcérée.
Mais que faire, mon Dieu, que faire?
On frappait à sa porte.
Entrez, fit-il distraitement.
Cyprien se présentait annonçant.
Monsieur le capitaine de Montermet.
Faites entrer, ordonna Florent, en cherchant à donner à sa physionomie son expression habituelle.